Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Antoine, cette semaine, j'ai mis à l'essai le Mazda CX-9 2021,5 ouais. Parce que, bon, on attend, on le mentionnait, là, on attend toujours des modèles 2022. C'est une version signature et un truc qui m'a peut-être un peu déplu avec cette version la plus cossue, la plus équipée, la plus luxueuse de ce modèle-là, c'est qu'à la deuxième rangée, ben, on a des sièges baquets avec une console au centre de ces deux sièges-là. Bon, quand on achète un véhicule aussi gros, on peut imaginer qu'on va peut-être y asseoir plus que quatre personnes. Et donc, ça force, dès qu'on veut être cinq à bord, ça force à avoir en place la troisième rangée. Et lorsque la troisième rangée est en place, ben, il reste plus de place pour les bagages. Là, le coffre est très petit. Alors, c'est pas
un véhicule qui se vend énormément non plus. Non, il y a eu un peu d'effervescence au début.
Oui, au début, et ça fait longtemps, là, parce que le modèle est le même depuis 2016, essentiellement. Ouais. Le temps commence à faire son temps. Donc, j'espère qu'on arrivera...
Ça, c'est la citation du jour, ça. Le temps commence à faire son temps.
C'est le temps commence à faire son effet, je pense, hein, ou je sais pas trop. Mais bref, ça commence à paraître là que le véhicule date de quelques années. Donc définitivement, je n'opterai pas pour une version signature, ni la version Kuro qui elle aussi a les sièges baquets à la deuxième rangée. Est-ce que je choisirais par exemple un Pilote qui est lui aussi un véhicule vieillissant avant un CX-9? Définitivement, un Highlander, un Atlas, absolument.
Oh,
donc c'est pas un premier choix. Pour moi.
C'est un entre-deux pour moi, le CX-9. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le territoire d'un véritable 7 passagers.
Non. C'est pas gros comme un Explorer.
On est entre un Edge et un Explorer.
Ouais.
C'est vraiment. Et c'est un moteur 4 cylindres.
Il y a des
limitations au niveau du remorquage, 3500 livres, alors que la concurrence est à 5000. Comme le Subaru Ascent.
Oui, il doit affronter ces limitations-là, mais en plus, le coût d'opération de ce véhicule là demeure élevé, étant donné que, oui, c'est un 4 cylindres, mais on doit l'alimenter au super. Donc, pour moi, il n'y a aucun gain intéressant de ce côté-là. Bon, évidemment, il a fait extrêmement froid cette semaine. C'est les conditions les moins idéales, là, on va se le dire,
pour un
véhicule. Donc, à 200 km, on m'affichait là, 12 litres aux 100 km. C'est pas génial, mais à ce temps-ci de l'année, c'est correct.
Ben, c'est la consommation que j'aurais fait, moi, avec le véhicule que j'essaie cette semaine, qui est l'Acura RDX, équipé d'un moteur 2 litres turbo, mais qui a consommé pas mal, effectivement, et qui est lui aussi rouleau super.
Super, oui, voilà.
Donc, la puissance est équivalente, en fait, à celui du CX-9, là.
Peut-être un véhicule un petit peu plus âgé, là, on va se le dire.
Ouais. Ben, en fait, le CX-9, c'est pas pato. Pour ce que c'est,
non, c'est pas
si mauvais. Mais le RDX... J'adore la conduite de ce véhicule-là. C'est léger, c'est maniable, c'est stable. Dans la neige, et on a pu l'expérimenter cette semaine, le rouage intégral performe à merveille. C'est un véhicule qui est plus gros que ce qui te donne l'impression quand tu le conduis.
Parce que c'est spacieux, là, à l'intérieur. Ouais. Il y a de la place à la deuxième rangée. Le coffre est grand aussi.
Ouais,
parce que, on le rappelle, il fait partie de la catégorie des compacts. Là,
c'est beaucoup plus gros qu'un Q5, qu'un
X3.
Il y a beaucoup plus d'espace. Alors ça, c'est un de ses points forts, mais ça n'en fait pas un véhicule moins agile pour autant. Et ça, c'est un point que j'aime beaucoup. Super rouage intégral, moteur performant, rendement mécanique, j'ai rien à dire. Il y a une belle gueule aussi, c'est une version A-Spec. Là où je décroche, c'est vraiment la complexité de la planche de bord. Et aussi, le soir venu, cette espèce d'éclairage qui cadre absolument pas, c'est-à-dire que parce que c'est une version sport, on a mis une instrumentation éclairée en rouge, mais avec des témoins de lumière éclairés en vert, la balance des cadrans sont en blanc.
T'as l'impression d'être dans un rave un peu.
C'est absolument pas cohérent comme habillage d'éclairage. Alors ça clash un petit peu. Puis je veux dire, le pavé tactile, c'est un cauchemar.
C'est impossible de s'y habituer.
C'est un bordel. On aura beau essayer de me faire me vendre vendre l'idée que c'est une bonne idée puis qu'on salit pas l'écran parce qu'on passe pas directement par lui avec nos doigts. J'aime mieux salir l'écran et le nettoyer de temps en temps que de devoir composer avec un pavé qui répond pas. Tu veux répondre au téléphone, tu places ton doigt là-dessus. Non, ça marche pas, t'as pas le temps, tu perds ton appel. Tu veux changer... Tu sais, c'est complexe. C'est vraiment une utilisation qui est contre-intuitive et j'imagine qu'avec le temps, tu finis par t'y habituer, mais ça demeure inutilement complexe par rapport à un écran qui est placé là ou avec lequel tu as une connexion directe.
Et j'avais mentionné ça dans un texte une fois parce que, bon, à chaque fois qu'il est question du RDX, on en fait mention et on m'avait répondu à l'agence de communication en m'envoyant une série de tutoriels et d'explications pour apprendre à manipuler le système d'infodivertissement. Si je dois passer 4 heures à écouter des vidéos pour savoir comment brancher mon téléphone, il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne
pas. J'aime mieux faire un cours d'espagnol.
Il n'y a aucun manufacturier qui a besoin d'envoyer ce type d'informations-là. Et effectivement, c'est peut-être plus rentable de suivre.
Et ce qu'on s'explique mal, c'est que quand tu es chez Toyota, tu es chez Honda, tu es chez Nissan, c'est facile. Mais quand tu pars chez Acura, chez Lexus, chez Infiniti, là, ça devient inutilement complexe.
Chez Infiniti, avec les deux écrans.
Bon, là, on élimine ça, tranquillement.
Mais même chez Lexus...
Mais à quoi on a pensé?
On en a un pavé tactile aussi chez Lexus qu'on tend à délaisser, là.
Est-ce que le fait de payer plus cher, ça nous donne accès à quelque chose de plus... Tu sais, je veux dire, c'est un non-sens.
On veut nous donner plus de technologie, mais plus de technologie, malheureusement, ça vient avec plus de complexité et voilà.
Non, c'est ça. Fait que ça, c'est l'élément qui fonctionne pas. Mais sinon, c'est une sacrée belle machine à conduire. Confortable. Les sièges sont très bien. Tu sais, j'ai pas d'autre chose à dire contre ce produit-là, autre le fait que l'utilisation de la planche de bord est inutilement complexe. Puis c'est un produit que je recommande haut la main. Et que je compare avec un Genesis, par exemple, GV70 à moteur 2.5 turbo, que je conduirai la semaine prochaine. Et je pourrais donc faire une comparaison direct.
Je te souhaite de ne pas te faire voler ta plaque d'immatriculation.
Oui, exactement. On rappelle que Germain avait une plaque d'immatriculation d'un manufacturier de l'Ontario sur un GV70 à moteur 6 cylindres et qu'elle est soudainement disparue un jour comme ça où il allait magasiner à Laval.